Bonjour à tous et bienvenue dans Sans langue de bois. Merci de nous rejoindre dans Parole de militants et de faire vivre avec nous cette émission. On l'attendait, le printemps. Alors vous allez penser que c'est une obsession chez moi. J'en parlais déjà le mois dernier et sans doute le mois d'avant, implorant son arrivée. Pourtant, le printemps n'est pas fait seulement de bourgeons et de barbecue. C'est aussi pour François Hollande le mois du bilan. Et oui, un an bientôt, monsieur le président. Et parce que l'éducation a été largement au cœur de la campagne du Parti socialiste, que l'éducation a été présente comme la priorité du gouvernement, j'ai choisi de vous proposer de débattre aujourd'hui sur l'école. C'est avec plaisir que je retrouve alors aujourd'hui trois militants et surtout trois voix déjà bien connues de la radio. Bonjour à vous trois, à commencer par Élise du MJS.
Bonjour.
Samy pour Communiste Futur Rouge.
Oui.
Et Romain donc pour les Jeunes Pop.
Bonjour.
Donc l'école nous impose une tenue studieuse, ne perdons pas de temps et commençons dès à présent. Alors Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a ouvert la grande concertation sur l'école le 5 juillet dernier. Les choses ont avancé, donc nous le verrons. Et d'abord cette première question, donc pour toi Élise qui va ouvrir le débat. Pourquoi vouloir refonder l'école ? Peut-être une question d'ouverture.
Alors, pourquoi refonder l'école ? Parce que quand on voit qu'une école va moins bien, que c'est le système de la reproduction sociale, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de se décider à changer profondément l'école et à révolutionner notre système scolaire.
Et ça parle de quel constat ? Et est-ce que c'est vouloir faire tabula rasa du passé ?
Alors, il y a des choses dans le passé qui ont été faites, notamment ces 10 dernières années, qui sont déplorables pour notre système éducatif, notamment la suppression de la formation des professeurs. Et c'était notre rôle en tant que gouvernement de gauche de rétablir certaines choses qui avaient pu être enlevées, mais pas seulement rétablir, mais aussi aller plus loin dans la refondation de notre école républicaine.
D'accord. Et là-dessus, Romain, donc, par exemple, la suppression de la formation des professeurs, la fin des UFM en France.
Moi, je voudrais juste revenir juste avant sur le thème refondation. Là, on est en train de voir une fois de plus, la prétention du Parti socialiste avec le terme refondation, que je trouve particulièrement choquant. Car le terme refondation signifie qu'on va reconstruire sur de nouvelles bases et sur de nouveaux principes ainsi que de nouvelles valeurs. Et au contraire, l'école de la République, c'est justement une continuité avec les lois Guizot, les lois Ferry, avec tout un ensemble de lois sur la 3e et la 5e République. Et du coup, la refondation, ça veut dire qu'en fin de compte, tout est nul et on refond de tout. Et donc, je pense que déjà, le terme refondation, qui est le terme utilisé pour le débat et pour le projet de loi, est déjà prétentieux et en plus choquant, je pense, pour les Français.
D'accord, ok. Donc pour toi, Romain, cette refondation vient remettre en cause toute l'évolution du système scolaire, de la carte scolaire.
L'école, on peut la réformer, mais la refonder, ça veut dire que le terme est trop fort. On ne refonde pas, on va dire, l'école de la République. Je veux dire, on est tous ici issus de l'école. Je veux dire, il y a des problèmes, on le sait tous, mais il n'y a quand même pas, je veux dire, la base n'est quand même pas vérolée. Je veux dire, je trouve que c'est une insulte, aux Français et une insulte au corps professoral, parce que ça veut dire refonder, ça veut dire que, bon, bah voilà, tout ce que vous avez fait pendant 40 ans de votre carrière, c'est nul.
Et Samy, là-dessus, sur le terme de refondation, est-ce que tu trouves que c'est prétentieux ? Est-ce que pour
là,
toi, c'est rejeter le passé ?
Le débat sur la continuité, la refondation, moi, je vois une bataille de mots avec des grands mots qui ont été employés comme révolutionner le système scolaire. Moi, je suis tout à fait pour révolutionner le système scolaire. C'est tout à fait important. Je pense qu'il devrait... Il devrait y avoir quelque chose de tout à fait différent, mais dans une autre société aussi. Pour l'instant, moi, je vois surtout des effets d'annonce. Donc, à la limite, on peut batailler sur tel ou tel terme. L'UMP nous fait revenir en 1830 avec Guizot, etc. Ça là, c'est des débats complètement creux, d'après moi.
Hein. Je rappelle donc l'ambition première, avancée par Vincent Peillon, c'était d'inverser une évolution des performances, donc qui tend à se dégrader actuellement, diviser par deux donc le nombre de sorties sans diplôme, faire en sorte que 50% d'une classe d'âge soit diplômée de l'enseignement supérieur, et donc il mettait en avant quatre thématiques majeures. Donc là-dessus, peut-être que tu vas pouvoir réagir, Élise. La réussite scolaire pour tous, les élèves au cœur de la refondation, des personnels formés, reconnus et un système juste et efficace. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans finalement de révolutionnaire ?
Eh bien, je pense que déjà le fait de penser que remettre l'élève au cœur du système scolaire et non pas en pensant que le professeur est détenteur de tous les savoirs et que du coup l'élève serait une espèce de banque de données à devoir ingurgiter un tas d'informations et un tas d'enseignements et remettre l'élève au cœur du système scolaire. C'est aussi c'est respecter ses rythmes biologiques. Donc je pense que ça, c'est quand même assez novateur, dans le sens où on ne peut pas demander à un élève d'être attentif pendant des heures. Et on voit que le système, que les rythmes scolaires actuellement ne sont pas adaptés au rythme biologique de l'élève. Donc déjà, ça, je pense que c'est une grande rénovation. Dans la réforme Payon, il y a aussi, encore une fois, je le disais, le rétablissement de la formation des professeurs avec les ESPE. Et il y a aussi peut-être un travail à faire, et c'est pas, on ne s'arrête pas à une réforme, on ne s'arrête pas à la réforme de Payon, il y a aussi peut-être un travail à faire sur la durée, sur le long terme, avec peut-être d'autres réflexions sur comment rénover notre école de la République. Et si je peux revenir deux minutes sur ce qu'a dit Romain Billard sur le fait que la refondation soit quelque chose de très prétentieux, je ne pense pas que ce soit très prétentieux, je pense que justement, regarder les choses en face, en remarquant que l'école actuellement, et même si l'école de la République dure depuis des années. Je pense que c'est important de prendre le taureau par les cornes quand on a un système de reproduction sociale, quand on a un système où les élèves sont mal orientés, où on voit qu'il y a un échec scolaire fort. Je pense pas que ce soit très prétentieux de parler de refondation.
D'accord. Alors, Romain, donc toi qui remettais en cause au moins la terminologie de refondation, comment expliques-tu donc les inégalités qui sont creusées à l'école dans ces dernières années?
Je suis revenu sur le terme parce que je pense que voilà, il fallait revenir sur le terme. Après, c'est sûr que c'est du superficiel et je rejoins Samy sur le fait que c'est du superficiel. Le fond du projet, il est complètement... c'est une coquille, mais c'est juste une coquille. Il n'y a rien à l'intérieur. Je veux dire, c'est bien beau de parler de refondation, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien sur justement le métier d'enseignant dans cette réforme. Il n'y a aucune chose sur justement la formation pendant les 40 ans. Après... sur justement le côté égalité. Le problème, c'est qu'on parle des inégalités. Le problème, c'est que tant que le Parti socialiste et la gauche, et j'ai envie de dire de cela depuis 30-40 ans, n'arrivera pas à se mettre dans la tête que tous les enfants ne sont pas égaux en termes de droits, mais égaux en termes justement de parcours, de tout ça, on n'arrivera pas à faire avancer l'école. Parce qu'ils veulent faire croire que tous les enfants... Un enfant en voit un autre, qu'un enseignant voit un autre enseignant et qu'un établissement voit un autre établissement, le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça. C'est-à-dire qu'à vouloir dire qu'il y a de l'égalité, on crée de l'inégalité. C'est ça.
D'accord.
Le problème.
Donc, tu soutiens le modèle de l'école à deux vitesses?
Non. Moi, je pense qu'il y a deux vitesses, c'est un fait. C'est à nous, c'est les politiques, c'est les jeunes, c'est tous les enseignants à essayer de faire avec. Je veux dire, c'est ça le. Il faut qu'on arrive à faire justement. Oui, à faire avec.
À faire
ça veut
avec.
Dire qu'il faut accepter que tous les enfants ne veulent pas faire tel parcours, parce que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire le collège unique, tout ça.
Alors, ça, on va y revenir donc sur la question du collège unique juste après. Là-dessus, quand même, ouais. Samy Dichy, l'élève au cœur de la refondation,
cette
idée-là, est-ce
pour moi,
que.
L'élève au cœur de la refondation, pour moi, ça veut pas dire. Enfin, c'est un terme qui veut rien dire, en fait, en soi. Par contre, l'école est un instrument de reproduction sociale, c'est évident. C'est-à-dire que c'est le principe même de la démocratie bourgeoise, de la République bourgeoise, qui est de dire vous êtes égaux devant la loi et vous avez en face de vous un service d'éducation, par exemple, égal. Mais vous êtes dans des conditions inégalitaires. C'est-à-dire, c'est le riche comme le pauvre a le droit de rouler en Ferrari, mais le problème,
donc
c'est qu'ils n'en ont pas forcément les moyens.
Donc,
ça veut dire que c'est une course où tout le monde est soumis aux mêmes règles, sauf que dans la course, ça c'est, je crois même que c'était Clémenceau qui disait ça, il y a des cul-de-lattes et puis il y a des coureurs professionnels.
D'accord, donc l'école n'est plus un service public aujourd'hui.
C'est-à-dire que ça a toujours été inégalitaire. Le système scolaire tel qu'on l'a connu, républicain, a été un progrès par rapport à son, quand il n'y en avait pas du tout. C'était une avancée, mais ça a toujours été un instrument de reproduction sociale et ça le sera aussi longtemps qu'on sera dans une société. On ne peut pas dire vous êtes égaux devant la loi si économiquement les gens ne sont pas égaux parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions.
D'accord. Et la question du collège unique, alors lancé en 75 sous le mandat de Giscard, un collège unique pour accueillir l'ensemble d'une classe d'âge, donc c'était aussi une critique des modèles d'école à filière. Ça finalement, c'est déjà...
C'était une bonne chose, c'était une avancée.
c'était une bonne chose.
Bien sûr, de garantir le service d'éducation de la meilleure qualité possible pour le plus de monde possible. Mais quand je vois
qu'aujourd'hui,
on en est à dire, il faut que 50% d'une classe d'âge ait un diplôme universitaire, comparé avec les chiffres, même des États-Unis, ils sont bien au-delà de 50%. La Corée du Sud, ils sont bien au-delà. Ça veut dire que
La 50%... Corée du Sud, c'est le premier pays au monde.
Mais si vous prenez les pays de l'OCDE, 50% d'une classe d'âge avec un diplôme universitaire, c'est nul. Ça veut dire que le système français scolaire est un des systèmes les plus excluants dans les pays dits développés. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est que, soi-disant, sous couvert de méritocratie, on a fait un système d'exclusion aussi. Ce qui ne veut pas dire que je suis pour un système hyper inégalitaire que, d'après moi, propose l'UMP. Je ne suis pas non plus d'accord avec ça. Mais je pense que...
On ne propose pas l'inégalité, non. Mais... On dit qu'il faut faire avec les inégalités réelles. Ça veut
oui,
dire
voilà,
comme...
c'est-à-dire accepter.
C'est ce que tu disais.
Il faut les accepter.
Moi, je ne pense pas qu'il faut les accepter. Je pense qu'il faut les combattre globalement dans l'éducation
non,
comme ailleurs.
Il faut les accepter pour faire les réformes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de réformes tant qu'on est déjà muré en disant oh, « ben non, tous les enfants sont égaux, il n'y a pas ça. Ben, » À partir de là, c'est sûr que le chemin est bouché. Il faut qu'on accepte ça pour faire une réforme qui tienne en compte tout ça. Et c'est ce que je disais dans une de vos émissions précédemment, c'est sur la place de l'apprentissage et des filières professionnelles. Aujourd'hui, il y a un malaise, il y a un rejet, un mépris de tout le travail qui est professionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on ne fait pas Bac plus 10 ou qu'on ne fait pas un diplôme universitaire, on n'est pas reconnu. Et c'est ça le problème aujourd'hui en France. C'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste continue à accentuer ça, avec la fin de l'apprentissage à 14 ans en classe de 4e. Et là, je trouve ça, moi, déplorable, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans un pays où on veut faire que des personnes qui travaillent dans le tertiaire, qui travaillent, on va dire, dans les catégories socio-professionnelles intellectuelles. Et on délaisse toutes les personnes qui font en fait vivre aussi la France. Ça veut dire les personnes qui travaillent dans le milieu de l'artisanat, de l'industrie.
D'accord. Samy, là-dessus, est-ce que du coup tu penses que les voies professionnelles, c'est une solution à cette montée des inégalités
Moi, je pense que mon objectif... entre guillemets ultime par rapport à ça, ce serait de d'abolir graduellement la séparation de travail manuel et intellectuel. Et je pense que
c'est-à-dire
globalement la société, globalement le mouvement de développement des forces productives, le mouvement de développement de la société va vers ça, c'est-à-dire va vers des gens qui sont des travailleurs complets à la fois manuels et intellectuels. Mais
donc c'est-à-dire un ouvrier par exemple qui pourrait gérer la comptabilité.
C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il soit partagé entre les deux et qu'il lit les deux et qu'il réfléchisse et qu'il agisse aussi avec ses mains. Mais ça, pour moi, ça, c'est pas possible dans le système actuel. Quand j'entends que, voilà, il faut que les gens soient reconnus, etc., bidule truc, qu'il faut garder l'apprentissage à 14 ans, moi, ce que j'entends surtout, c'est une justification des politiques de démantèlement du système aussi bien scolaire que universitaire et autres, qui a été menée depuis un bon moment. Il y avait eu déjà de Bayrou, la semestrialisation, ensuite Allègre, Langue, etc. Puis évidemment Ferry, tous les ministres d'Arcos jusqu'à Pécresse, etc. Tous les ministres successifs de droite comme de gauche qui ont travaillé à privatiser, à démanteler les systèmes d'éducation supérieure.
L'université est encore quand même sacrément gratuite en France. Il ne faut pas non plus dire privatiser comme ça.
Donc, juste, Élise, du mouvement des jeunes socialistes, la question du collège unique, la gauche et le Parti socialiste supportent largement cette idée du collège unique. Et donc, quand même, une question, un collège unique qui se mettrait contre des modèles donc plutôt d'école à filière, par exemple, comme l'Allemagne. Et finalement, on voit que finalement, ce modèle d'école à filière est au-dessus en termes de rang, de classement, PISA, etc. C'est un modèle scolaire qui arrive à se placer au-dessus du modèle français. Alors, est-ce que le collège unique, ça n'a pas émietté finalement le modèle éducatif français ?
Alors, justement, tu parlais du test PISA. Moi, j'aimerais bien revenir dessus parce que quand même, pour répondre à Romain, la France, justement, dans ce test, au niveau de l'OCDE, la France recule depuis 10 ans. Et on sait très bien que depuis 10 ans, ce n'était pas
la
gauche
faute de la
au
droite,
pouvoir.
Oui, c'est la faute de la droite, comme toujours.
Encore une fois, excuse-moi, mais enfin, depuis 10 ans, ce n'est pas moi qui l'invente. C'était la droite au pouvoir. Donc.
Et les conséquences de la gauche.
Et il se trouve que les pays les plus performants du monde, et donc dans lesquels la France recule depuis 10 ans, qui luttent vraiment contre les inégalités qui te tiennent apparemment tant à cœur, il se trouve que quand on met en place des systèmes un peu mixtes dans des classes avec des élèves plus entre guillemets performants, qui auraient moins de difficultés scolaires, avec des élèves qui n'ont pas ces mêmes facilités, la moyenne est plus élevée, le niveau moyen est plus élevé et les élites sont plus performantes. Donc à partir de ce moment-là, je suis pas sûre que on veut absolument pas voir qu'il y a des inégalités, il y en a. Et justement, la refondation de l'école, on va vers l'acceptation de ces inégalités et essayer de faire en sorte que chacun trouve dans le système scolaire une bonne orientation et trouve ce que l'élève en fait peut aller vers l'émancipation et vers vraiment le choix professionnel sur lequel il sera porté.
Donc là, Élise, donc tu dis finalement que le modèle d'avoir des classes mixtes et non des classes avec des bons et des mauvais, ça remonterait le niveau général.
Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le CNU.
Mais finalement, le collège unique, c'est ça. On a dans des collèges un collège de secteur. On va avoir des bons, des moins bons ensemble. Mais c'est ce modèle, en fait, du collège unique, là, qu'il faut interroger. Est-ce que ce socle commun est nécessaire à tout le monde, donc jusqu'au brevet ? Est-ce que ce socle commun et ce collège ne contribuent pas à l'émiettement du système éducatif français ? Parce qu'on voit que, justement, le système, le modèle donc, d'école à filière, après donc, le CM2, se diriger vers des voies professionnelles et professionnalisantes, ça marche mieux dans les pays voisins. Alors, est-ce que ce modèle de collège unique que vous défendez, le Parti Socialiste, ça contribue pas ?
Alors, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. En Allemagne, il y a une sélection qui est faite dès le plus jeune âge de l'élève en fonction d'un test qu'il va recevoir lorsqu'il aura 9 ans. Et en fonction de ce test, il sera envoyé dans soit en Hauptschule, soit au Gymnasium. Voilà, il y a des choses qui sont faites en Allemagne qui se font aussi par le test, comme si... Bah, voilà. Et moi, je trouve ça très, très grave qu'en Allemagne, et même si en ce moment, l'Allemagne est soi-disant le modèle à suivre, moi, je suis pas sûre. Parce qu'à 9 ans, qui peut nous dire que jusqu'à 18 ans, on sera dans telle ou telle ou telle école, alors que l'élève n'aura pas forcément envie d'y aller. Et quand Samy disait justement et citait les États-Unis, là-dessus, moi, ça me pose quand même sacrément un problème, parce qu'aux États-Unis, pour faire des études, il faut raquer.
Mais je défends pas les États-Unis. Hein.
Et il faut, bah, j'espère, parce qu'aux États-Unis, pour faire des études, il faut avoir de l'argent. Et c'est encore un autre moyen de sélection que, en tout cas, moi, je dénonce, parce que l'accès aux études et l'accès à l'école doit être complètement gratuit.
Et là-dessus, du coup, Romain, toi qui tu parlais de filière pro, etc., ce modèle d'école à filière type allemand, c'est ça le modèle que vous
d'accord.
supportez à l'UMP ?
Non. Moi, je suis d'accord avec Élie, c'est qu'à 9 ans, on ne peut pas décider d'un parcours définitif. Moi, je pense que ça doit se faire aussi, on doit prendre plus en compte aussi l'enfant.
Moi, en quatrième, on est capable, en tant que jeune, à 14 ans, de savoir...
Moi, je parle en tant que moi-même, en tant qu'élève. On a des goûts, je veux dire, tout le monde a des goûts, a des envies. Et le problème en France, c'est qu'on joue trop sur les notes. Oui. On joue trop sur les notes et on ne joue pas assez sur les motivations des élèves. Moi, je suis bien placé pour dire tout ça. Moi, j'ai fait le bac STG, qui est un bac technologique, qui est très bon et qui est pourtant très, très mal vu par les enseignants, par toute la classe politique et même la classe civile. Et je pense que c'est ça le problème. C'est qu'on dénigre trop certaines filières et que... Au contraire, on devrait accentuer certaines filières, car on fait croire à des personnes que parce qu'ils vont faire S, ils vont finir ingénieur, ou qui parce qu'ils vont faire L, ils vont finir prof d'université. Donc en fait, je crois qu'en fait, l'éducation, c'est beaucoup de, on va dire, de précarés, d'images qui sont assez faussées.
Et donc pour toi, c'est presque... Est-ce que c'est une utopie de vouloir emmener une classe d'âge au baccalauréat, les fameux 80% d'une génération au bac de chevènement en 85?
Je pense que le bac, c'est comme le brevet. Je veux dire, voilà, c'est une étape qu'on passe maintenant sans grande difficulté. Après, tout dépend du bac. Je veux dire, il y a des personnes... Voilà, moi, j'ai connu des personnes qui étaient très, très bonnes en littéraire et qui se sont retrouvées à faire S parce que c'est S qui est mieux couru. C'est ça aussi. C'est qu'on pousse aussi certaines personnes qui sont des talents dans certaines filières à faire d'autres filières. Et après, il ne faut pas s'étonner, justement, qu'on ait une France qui soit monodisciplinaire, qui soit orientée vers certains métiers et qui, du coup, ralentit sur certaines choses. On voit qu'aujourd'hui, on est en manque d'ingénieurs en France. On est en manque d'ingénieurs.
Donc là, ce que tu critiques, c'est la valeur qu'on accorde donc aux filières.
Oui, voilà, ça veut dire qu'en fait...
Et donc comment redonner, légitimer certaines valeurs, voies professionnelles par exemple? Comment relégitimer
et comment redonner de la valeur justement aux filières professionnelles? Parce que je pense que c'est là où on peut créer de l'emploi, et c'est là où on peut créer, je pense, des beaux parcours. Je veux dire, tous les métiers du bâtiment, tous les métiers de l'artisanat où il y a des vrais débouchés sont mal considérés. Aujourd'hui, vous avez plein de personnes, voilà, des jeunes qui vous disent, moi par exemple, je vais travailler dans le bois et tout. La plupart des parents, par peur justement de la société, disent, oh ben non, tu vas pas tenir une ébénisterie, tu te rends pas compte et tout, donc il vaut mieux que tu fasses ça. Et en fin de compte, aujourd'hui la France se désindustrialise. Alors on parle de toutes les politiques économiques en termes de capitalisme et tout, mais on parle aussi, on parle pas assez justement de toutes ces filières, parce qu'on est en manque de personnes qui peuvent travailler dans ces filières industrielles qui sont, je pense, de l'avenir, dans les filières vertes, les choses comme ça. On manque de personnes, et les personnes qualifiées partent ensuite à l'étranger. Ça, c'est un autre point qu'on abordera peut-être.
Et Samy, toi, est-ce que pour emmener toute cette classe d'âge au baccalauréat, c'est 80%, c'est une utopie? Est-ce que c'est réalisable, le bac aujourd'hui?
Je pense qu'on
voit qu'il n'est plus suffisant.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... moi, si je juge des gens que je connais et que j'ai connus, le bac, tout le monde est loin de l'avoir. Il y a quand même énormément de gens qui ne l'ont pas, y compris qui quittent dès 16 ans l'école et tout ça.
Et ça, c'est une réalité. Scolaire,
non, mais
du coup,
le décrochage, c'est-à-dire que, objectivement, je dis, quand je comparais avec les États-Unis, c'était évidemment pas pour dire que c'était bien de ce point de vue-là, les États-Unis, mais pour mettre en lumière ce qui se passait ici. Objectivement, le décrochage, c'est que le système scolaire est une machine d'exclusion aussi. C'est une réalité. Et ça, c'est une machine aussi qui, de découragement, d'exclusion, qui casse un certain nombre de personnes. Ça, c'est un fait, je veux dire. Il suffit de discuter un petit peu avec des gens de tous âges pour s'en rendre compte, quoi. Après, que ce soit des précarés, qu'on fasse croire aux gens qui vont devenir ceci ou cela, ça, c'est peut-être pas la faute de l'école. Ça, c'est peut-être la faute de la crise générale du capitalisme. Mais, et par ailleurs, sur la question de qu'est-ce qu'il faut développer, c'est vrai qu'il y a un manque de main-d'œuvre d'ouvriers qualifiés, mais ouvrier qualifié n'est pas ingénieur, parce que dans les bureaux d'études, il y a largement assez de monde. Et je pense que c'est plutôt au niveau du savoir-faire technique, qui n'est pas les bureaux d'études, que là, il y a un manque. Au contraire, au niveau ingénieur, la France, elle en produit à profusion, des ingénieurs, qui sont d'ailleurs très demandés un peu partout.
Samy, donc tu parlais de crise générale du capitalisme. Ça nous amène quand même à parler de cette crise de sens. Je pense qu'on est tous d'accord pour s'accorder là-dessus. C'est une crise de sens aujourd'hui. Et c'était aussi le débat donc, sur cette morale laïque à introduire à l'école, qui partait finalement de ce constat de crise de sens. Et donc refonder l'école pour refonder la République. Alors déjà, ce lien entre refonder l'école et refonder la République,
Élise... Le lien paraît quand même assez évident, dans le sens où l'école prépare, entre guillemets, les générations futures, les générations que ce soit ouvrières, employées, politiques. Enfin voilà, c'est l'école qui... enseigne aux futures générations. Donc c'est, quand on parle de refondation de l'école, on voit évidemment une évolution du coup sur le long terme et qui va du coup jusqu'à la refondation de la République. Pour moi, je pense qu'il faudrait quand même s'interroger aussi sur le rôle vraiment de l'école et pas seulement sur les conséquences qu'on a en France ou sur les conséquences qu'on a ailleurs. Le rôle de l'école, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et on se pose du coup aussi la question de cette morale laïque qui serait de dire que chaque élève, et ça passe aussi par là, hein, de gommer un peu les inégalités dès le plus jeune âge, c'est aussi par prendre l'élève tel qu'il est et non pas selon une tradition religieuse ou selon son de là où il vient, des banlieues ou des beaux quartiers, enfin j'en sais rien. Mais du coup, je pense qu'il faut vraiment encore se poser la question du rôle de l'école et quelle école on veut pour la République.
Et du coup, il y a quand même un bilan, un constat, 3 millions de jeunes qui ont quitté l'école dans les années 90. Qu'est-ce que la République, après, qui justement, on voit le lien là entre école et République, 3 millions de jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme, comment la République peut parvenir à raccrocher ces jeunes-là qui sont sortis sans diplôme et pourtant qui sont des citoyens Comment la République peut-elle continuer à assurer son rôle si le service public de l'école n'est pas rendu à ce moment-là?
Alors, c'est vrai qu'il y a un très très fort décrochage parfois, et c'est aussi pour ça que nous, on est pour cette fameuse allocation d'autonomie qui existe. Et c'est aussi pour ça que mettre en place... pour raccrocher nos élèves et de les aider à trouver une formation pour après trouver un emploi. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, justement pour aider ces personnes qui ont été entre guillemets victimes de ce système scolaire et qui en ont décroché. Donc il faut effectivement mettre des mesures pour ces personnes-là, mais il faut aussi penser à l'avenir de l'école, et il faut aussi penser à ce que les élèves qui sont dans nos écoles aujourd'hui et qui y seront demain au rôle que l'école doit avoir pour eux. Et est-ce que l'école est seulement là pour les instruire, leur donner certains apprentissages, et puis hop, vous sortez de l'école et vous trouvez un travail? Ou est-ce que l'école, c'est aussi le rôle de mobiliser des compétences pour apprendre ensuite toute leur vie?
Alors justement, sur cette instruction, Romain, tout à l'heure, tu disais qu'il ne fallait pas remettre en cause toute cette évolution de l'école depuis Ferry, etc. La question de la morale laïque à l'école, parlons-en. C'est vrai que cette morale laïque fleure bon quand même la Troisième République, et je pense, est-ce que du coup finalement ça c'est des choses qui peuvent plaire à l'UMP, à la droite, ce
c'est,
retour
dès
un
que
peu
vieux et réacte, c'est la droite tout de suite.
Non mais cette
c'est
figure,
un peu cliché,
cette
mais...
figure de l'instituteur, tu affirmais être rattaché en fait finalement à cette école, c'est quand même l'école de la Troisième République. Et est-ce que cette morale laïque fait partie du modèle que vous défendez?
Le problème de ces morales laïques, c'est le problème, on va dire, de l'instrumentalisation qu'il y a derrière. C'est ça, moi, qui fait peur. Moi, je veux dire qu'on instaure des vraies valeurs d'autorité, de respect, de tolérance, tout ça.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'école, elle instaure vraiment ces valeurs d'autorité, de respect?
Mais je crois que le problème, c'est que l'école essaye de rattraper tout ça. Mais le problème, c'est que la société, alors la société, ça reprend les parents, ça reprend la société en elle-même avec les médias, l'éducation, tout ça. Donc tout ça est très difficile à rattraper.
Est-ce que aujourd'hui fait de la morale dans ses cours?
Mais le problème, c'est qu'il a une heure de cours, et pendant une heure de cours, il doit donner des connaissances, il doit faire le gendarme, il doit donner des notions de valeur et tout ça. C'est très compliqué de faire tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on demande aussi au corps professoral de faire un peu tout et un peu n'importe quoi. Ça veut dire, tu fermes, je suis en même temps, comment dire,
des
connaissances.
Les profs apprécieront.
Oui, mais parce que c'est cette impression-là qu'ils ont. C'est cette impression, voilà, d'être en même temps le gardien, l'instit, le prof d'université. Et c'est ça qui, je pense, rend le travail aujourd'hui d'enseignant extrêmement dévalorisant, parce qu'il a l'impression qu'on lui confie un petit peu tout et pas quelque chose de clair. Après, la morale, sur l'instrumentalisation, c'est ça le problème. C'est que la gauche veut faire ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'on sait que la gauche, elle est très très forte pour donner de manière indirecte des valeurs idéologiques très précises qui peuvent ensuite créer ce qu'on appelle une clientèle.
Samy veut réagir là-dessus sur la morale laïque à l'école.
Ah oui, parce que la gauche, elle amène des notions idéologiques très précises, pendant que la droite, elle, est complètement neutre et objective. Alors, je trouve ça marrant que le gouvernement UMP nous a bassinés avec la laïcité quand il s'agissait de taper sur les musulmans, et aujourd'hui, ils manifestent dans des manifestations homophobes main dans la main avec l'extrême droite.
Pas dire ça.
Des manifestations homophobes main dans la main.
C'est faux.
Et tes potes du GUD, tes potes.
J'ai aucun pote.
Ah, bah, ils font le service d'ordre dans tes manifs. Ils font le service d'ordre dans tes manifs. Ils manifestent avec des groupes qui font des prières de rue, qui font, et avec des gens qui font des agressions.
On n'est pas dans un débat pour le
ça, c'est une réalité. Moi, personnellement, après avoir entendu des tas de trucs islamophobes, etc., pendant 5 ans de gouvernement Sarkozy, et que maintenant on entend parler de morale laïque alors que les mecs vont avec les cathos intégristes,
mais il faut arrêter. Voilà. C'est la diffamation.
Oui, vas-y.
Non, c'est pas de la diffamation, c'est une triste réalité.
Excuse-nous.
On a pas encore manifesté dans la nuit pour dire un coup.
Ça abaisse le Parti Socialiste de tenir des tels propos.
Ah bon? Mais est-ce que ça vous abaisse pas, vous, de manifester avec des extrémistes de droite?
Mais il faut je pense que le GUD, en fait. Faut arrêter de dire.
Et le GUD, ils font pas le service d'ordre dans tes manifs. Le GUD, ils font pas le service d'ordre dans tes manifs.
Moi, Goodwin, en arriver à dire comment dire.
Et le GUD, c'est pas
des droites. De toute façon, Samy, tu ne connais pas les connaissances.
Je sais que ça peut te faire du mal, mais c'est comme ça.
Non,
chacun ne connaît pas
ses connaissances personnelles, c'est les connaissances de son organisation politique.
Ça ne t'honore pas de dire ça, Élise.
Ah, mais je te remercie de savoir ce que tu n'as pas.
Samy,
moi, je pense que ça ne t'honore pas d'aller manifester main dans la main avec Alexandre Gabriel.
Oui, on n'a jamais. Moi, je n'ai jamais manifesté avec les indépendants.
Pas devant l'opéra quand il y avait Christiane Taubira.
Mais t'es pas
tisée. Excuse-moi.
Élise, hop, on se recadre sur l'éducation. On ne connaît pas les activités extrascolaires de chacun. Voilà, les amis.
Les activités militantes.
Voilà, donc Samy, tu peux reprendre la parole, mais on ne parle pas ni de mariage pour tous, ni des uns, ni des autres.
L'idée de la laïcité, voilà, c'était à double. Comment dire, géométrie variable. Alors, ensuite, que ce qui est sûr, c'est que
les syndicats sont maintenant. Non, parce que c'est facile de dire
on
ça. Quand il y a le Sénat, quand il y a le Sénat qui décide de donner, comment dire, une impunité totale aux casseurs qui sont à gauche, là, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci.
Romain, après, sinon, on ne va pas reprendre. OK.
Waouh.
Ouais. C'est normal qu'on défende un petit peu quand même les choses qui sont fausses.
Il y en a sûrement eu.
Sur l'histoire de refonder la
Samy
République.
Samy Dichy sur la morale laïque, refonder,
etc.
Bon, mais je voudrais rappeler un petit truc sur la parce que il y a un problème aujourd'hui, c'est que le discours pseudo-républicain, il est pas considéré comme crédible, en tout cas par les jeunes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des raisons à ça. Alors, on parle de refonder la République, mais je voudrais peut-être. Elle a été fondée comment, la République ? Elle a été fondée par un gouvernement qui prend des mesurettes ? Non, elle a été fondée par une révolution.
Samy, alors la question là, c'est
donc,
vraiment sur la
si
morale.
Si on veut refonder
laïque.
La République, il faut être cohérent, il faut faire une révolution. Parce qu'aujourd'hui, la République, elle sert de couverture. Elle sert de couverture à. Un système d'exploitation avec des grands groupes qui vampirisent les gens et qui jettent les autres dans la misère.
D'accord. Donc voilà. On a bien compris, Samy. C'est donc là, le modèle, cette crise générale du capitalisme, tu parlais tout à l'heure. On va revenir à Élise. Donc cette morale laïque, c'est quand même une proposition de Vincent Peillon. Enfin, il a émis donc cette hypothèse, une réflexion sur la figure de l'instituteur. On disait que ça fleurait bon la Troisième République parce que la figure de l'instituteur devait beaucoup à celle du curé sous la Troisième République, même si ça s'y opposait, ça s'en inspirait quand même pas mal. Alors, éduquer sur l'éthique, c'est possible. Est-ce que ça participe aujourd'hui au projet de refondation de l'école ?
Alors, je pense que depuis justement cette époque-là où la figure de l'instituteur se rapprochait de celle du curé comme celle du médecin, parce que c'était ces personnes-là qui étaient instruites, et donc parce qu'elles étaient instruites, elles détenaient le pouvoir. Et parce qu'elles ne devaient pas s'expliquer sur leur choix, étant donné qu'elles savaient. Donc, depuis ce temps-là, je pense que la population s'est quand même s'est rendue à l'école, a été instruite à son tour. Et donc, les problématiques qui se posaient lors de la Troisième République ne sont plus vraiment les mêmes que celles du XXIe siècle. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment de ça fleure bon la Troisième République, parce que je pense que ce n'est pas dans la même démarche que l'on construit... que l'on construit l'école de la République maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, la morale laïque, c'est vraiment, encore une fois, pour gommer les inégalités, que ce soit religieuses.
Enfin, d'accord.
Là, en l'occurrence,
Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme disait tout à l'heure Romain, de tomber, pourquoi pas, dans l'idéologie ? Parce que finalement, l'instituteur va enseigner une morale qui peut lui-même moraliser, c'est-à-dire émettre là-dedans
moi,
un jugement de morale.
Je suis pas fan du mot morale en règle générale. La morale de qui ? La morale. Alors là, on parle de la morale laïque, mais
la morale Cahuzac.
Alors la morale
juste
pour éviter les polémiques.
Avoué, lui,
Romain, là,
non mais bon, ça
n'en est pas mon coupable. Donc sa définition, le but de
ça
la morale laïque.
Condamné.
Alors le but de la morale laïque, c'est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté de choix, donc je cite toujours, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, éthique, oui. Social, intellectuel, pour après faire un choix. Donc ça, Samy en a parlé.
Non, mais en fait, c'est
tu
ça.
En as parlé.
C'est effectivement l'élève, quand il arrive à l'école, il a effectivement été bercé par les dires de ses parents, de sa famille, de ce qu'il a pu voir ailleurs qu'à l'école. Et lorsqu'il rentre à l'école, c'est aussi le rôle de l'école que de lui apporter des outils de réflexion. Et même que ce soit la morale laïque ou des cours d'éthique ou les cours de français, de maths, d'histoire-géographie, enfin n'importe. L'élève doit être capable de mobiliser ses connaissances qu'il aura apprises à l'école, les mettre en confrontation avec les choses qu'il aura pu entendre lorsqu'il était plus jeune ou qu'il entend chez lui, dans sa famille ou dans son entourage, afin de se faire sa propre opinion. Et c'est vraiment une école pour l'émancipation de l'élève.
Alors toujours en fait dans cette même idée, c'est fuir les déterminismes, c'est s'émanciper, il y a aussi dans cette refondation de l'école la question de la scolarisation dès 2 ans. Alors, parce que les inégalités scolaires se dessinent dès la maternelle. Romain, là-dessus, sur cette scolarisation dès 2 ans, est-ce que l'UMP trouve ça judicieux de scolariser un enfant dès 2 ans? Un enfant à 2 ans, n'a-t-il pas besoin d'un rapport privilégié avec l'adulte? Être dans une classe de 30 élèves, par exemple, c'est pas justement lui donner ce dont il n'a pas besoin? A-t-on vraiment besoin d'enseignants, justement, pour instruire des enfants de 2 ans?
Là, je crois sincèrement qu'en fait, on est en... c'est pas du tout le même débat. C'est que je pense qu'à 2 ans, il y a la maternelle déjà qui arrive tout de suite après à 3 ans, en sachant qu'il y a des dérogations aussi pour les enfants de 2 ans.
Qui n'est pas obligatoire.
Qui n'est pas obligatoire.
Là, ce serait vraiment commencer, hein, la maternelle. C'est pas, c'est la scolarisation. Hein. On parle bien de la scolarisation.
La maternelle n'est pas obligatoire.
Moi, je pense que le fonctionnement actuel qui est maternelle à 3 ans, et ensuite, si on le souhaite, à 2 ans, je veux dire, c'est très très bien. Je veux dire, après, il ne faut pas non plus toujours vouloir, ça y est, c'est comme les personnes qui parlent en anglais au ventre de leur femme. Bon, il faut aussi arrêter des fois certaines idées que... voilà, il faut instruire.
C'est inutile, ce point-là de la réforme. Scolarisation des 2 ans, ça n'a aucun intérêt pour l'enfant.
Moi, je pense que la maternelle doit introduire la primaire et que, on va dire, la clé de tout ça, c'est le primaire. C'est au primaire où on arrive, où on se construit réellement. C'est là où on apprend à lire, compter, écrire. C'est le fondamental. Et c'est là où il faut mettre, le maximum. Après, qu'un enfant commence à 2 ans à la maternelle ou qu'il soit en garderie ou chez ses grands-parents ou chez de la famille ou chez des nounous à 2 ans, c'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Je veux dire, je crois qu'en fait le problème de cette réforme, c'est qu'on se trompe, on tape vraiment à côté, quoi. On est vraiment à côté, on n'est pas du tout à la hauteur. Je pense que les enfants méritent mieux que cette histoire à chaque fois. On avance à 2 ans.
Romain, pour toi, là concrètement, du coup, parce que tu as critiqué donc la scolarisation des 2 ans, la morale laïque, tu émets des limites.
Non, je critique pas. Je dis juste que c'est pas une obligation de faire justement de rendre obligatoire.
Aussi. Alors, qu'est-ce que tu proposes
Mais ce que je propose, c'est déjà. Ah. Oui, bah 2 minutes, oui. Ce que je propose moi déjà, c'est que. Au primaire, on arrive à donner beaucoup plus de moyens à l'enseignant pour qu'il soit plus concentré sur du fondamental. Moi, maintenant, je ne sais plus, ça fait 15-18 ans que je ne suis plus en primaire, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais en primaire, c'est vrai qu'on commençait, je pense, à s'éloigner de certaines choses ou à faire d'autres activités qui sont certes très importantes, mais on ne passait peut-être pas autant de temps justement sur l'écriture, sur la lecture. Et justement sur, bah voilà, le...
Et donc tout, du coup, renforcer le pôle de français, de mathématiques, l'apprentissage, on va dire, brut.
Je pense qu'il faut, d'abord faire...
Des matières principales.
Il faut d'abord faire le brut. Et après, au collège, il faut qu'on arrive aussi à renforcer ce brut. Je pense qu'au collège, moi, c'est mon opinion, après, c'est qu'il y a trop de matières qui sont pas, je ne dis pas inutiles, mais qui devraient, je pense, être des options.
Exemple, l'art plastique, est-ce que pour toi
c'est très bien,
c'est
mais
de l'option de...
Je pense que c'est... Non, mais c'est très bien. Moi, je veux dire, j'ai rien contre l'art plastique, mais c'est vrai qu'après, les enfants qui sont en difficulté en primaire, du coup, je pense que c'est plus utile pour leur vie d'adulte de continuer à bien savoir lire et écrire plutôt que de faire de l'art plastique. C'est ça, je pense que... en fait, on veut faire pour tous les enfants le même programme, les mêmes heures de cours. Et c'est ça qui rend, je pense, aujourd'hui le malaise et qui fait l'échec scolaire après au lycée.
Et du coup, Samy, là-dessus, sur l'échec scolaire, donc Romain disait qu'il fallait renforcer tous ces pôles dominants, français, mathématiques. Est-ce qu'il y a besoin, finalement, de faire de la musique, du sport dessin quand on a des difficultés?
Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tout ce que j'entends est prétexte à supprimer des cours ou à supprimer des heures, ou etc.
Non, mais déjà, à changer les matières, ça veut dire faire du français, peut-être faire moins d'études de texte et peut-être plus, on va dire, de la grammaire, de l'orthographe. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que dans les matières, par exemple,
donc
en maths,
supprimer des postes de prof, quoi.
Non. Mais est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit
alors,
ça.
Bah, moi, c'est ce que j'ai entendu.
C'est ce que vous avez fait.
C'est pas ce que j'ai dit. Alors, je sais pas.
Donc, sur la question de la formation des professeurs, Élise, on sait qu'il va y avoir donc la réouverture des IUFM, un retour donc au concours, au concours post-bac, une formation d'instituteur juste après le bac pour finalement redonner un peu de l'envergure à cette profession et surtout créer des véritables vocations, c'est ça, hein, l'IUFM. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi cette formation? Est-ce que finalement...
Déjà, ce que ça change...
C'est une formation aussi aux nouvelles technologies, l'école de demain...
Enseigner, c'est pas inné. enseigner, c'est pas quelque chose de d'inné comme ça. On arrive devant une classe, on sait tout de suite parler, gérer. Non, c'est pas vrai. C'est de quoi ? Non, mais
il vaut mieux une vocation, je veux dire. Oui, tout le monde ne peut pas être prof.
Je suis d'accord. Et c'est pour ça que la mise en place de ces écoles supérieures du professorat et de l'enseignement sont très importantes, parce que ça permettra aussi de donner à tous les futurs professeurs des outils quand ils se retrouveront devant une classe, qui pourront utiliser ces outils
du coup, là,
afin d'enseigner au mieux. Parce que c'est tragique pour l'enfant.
Finalement, les instituteurs, là, cette génération qui est arrivée il y a 10 ans, hélas, ils sont mal formés, ces gens-là.
J'en connais beaucoup qui ont dû quitter l'éducation nationale parce que c'était effectivement très dur. Parce que comme on le sait tous, les jeunes professeurs sont envoyés dans des zones dites sensibles au début de leur carrière. Et ils n'ont du coup pas les outils qu'on aimerait leur donner, nous, maintenant, pour enseigner et effectivement pour gérer une classe, parce que c'est pas seulement débiter des flots d'enseignement et salut, il est 4h30, je m'en vais. C'est pas seulement ça, enseigner, et c'est pour ça qu'effectivement ces professeurs qui ont été victimes de la suppression de la formation des professeurs sous Nicolas Sarkozy, et c'est dramatique.
Ça s'est fait il y a deux ans,
je trouve ça dramatique et je trouve ça très bien que la réforme Payon remette ça en place, parce que c'est normal de remettre une formation. Est-ce que t'enverrais un plombier réparer ta plomberie s'il n'a pas été formé ? Non. Ça dévalorise le métier d'enseignant. Et nous, ce qu'on veut, c'est revaloriser le métier d'enseignant.
L'URFL n'avait pas, excusez-moi, que des bonnes notes, on va dire, en termes de capacité ensuite pour les professeurs. Je dis qu'il faut trouver... Vous remettez quelque chose qui existait en...
Ben non, on remet les ESP, on remet pas les IUFM en place.
Nom,
c'est pas la
nom,
même chose.
Sinon, Romain, est-ce que sur le principe, reformer des professeurs, mais surtout créer cette vocation en ouvrant post-bac, c'est quand même, pour toi, l'idée, c'est une vocation d'envoyer tout de suite des jeunes aller se former au métier de professeur. Est-ce que sur l'idée, c'est bon et de créer, ça peut créer
Sur l'idée, moi je veux dire.
Sur l'idée.
Par exemple, en termes d'histoire, parce que j'ai fait ensuite une licence histoire géo, les profs d'histoire, ils font une licence d'abord en histoire, où ils acquièrent donc des connaissances, et ensuite ils se spécialisent dans des masters, justement, enseignement. Bon, c'est après, je pense quand même qu'il faut une base déjà de connaissances, parce que c'est bien beau de dire moi je veux être prof de ça, si on n'a déjà pas, comment dire, touché à la matière. J'ai l'impression que des fois on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire que, non mais le problème c'est qu'il faut des dosages, et c'est ça moi ce que je reproche aussi bien à la gauche et à la droite de mon côté, c'est qu'il n'y a plus de dosage. Ça veut dire qu'il faut, c'est soit tout, soit rien, je veux dire, c'est ça, qu'il y ait des stages, qu'il y ait... justement une base de connaissances, il faut un petit peu de tout.
D'accord, mais Romain, quand même là-dessus, il y avait ce constat de 39 suicides donc chez les professeurs, donc par an selon l'Express, contre 25 chez France Télécom, donc on voit quand même une profession qui est marquée par des professeurs démunis, et donc Nicolas Sarkozy, pendant ces 5 années, là, qu'est-ce qui a été... finalement, donc, ce bilan a été ressenti. Il y a eu quelque chose.
Il partait du principe qu'il fallait peut-être moins de professeurs, mais des professeurs déjà mieux intégrés, mieux considérés et mieux payés. Parce qu'aujourd'hui, un professeur qui commence, c'est quelqu'un qui est assez mal payé, il faut le dire.
Donc là, on parlait de la revalorisation par le statut, et donc toi, tu parles aussi de la revalorisation financière. Ça fait partie de la
revalorisation. Pas forcément que financière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une revalorisation, ce qu'on pourrait entre guillemets dire professionnelle, morale. Ça veut dire quelqu'un qui ne soit pas un prof, il n'est pas non plus forcément... Aujourd'hui, on va donner des cours à un prof pour qu'il ait plus d'autorité, qu'il ait plus, comment dire, de le rôle policier. Mais...
Non, d'outils.
Oui. Est-ce que c'est ça forcément le métier d'un prof ? Est-ce que c'est faire celui de gendarme ? Ça veut dire qu'après, il y a... Mais ne rigole pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Non, mais en fait,
c'est ce qui se passe dans les lycées et les collèges.
Je suis un peu triste
difficile.
D'entendre que tu interprètes le fait qu'on rétablisse la formation des professeurs pour leur donner une formation de policier. C'est pas du tout ce que j'ai dit.
On laisse la parole à Samy.
Franchement, quand même, j'ai la barre de
Romain et Élise. Samy qui n'a pas parlé. Le statut de gendarme du policier.
Non, mais une profession démunie déjà avec des classes aussi nombreuses. Il faut savoir que maintenant, ça augmente. Enfin, la population d'enfants, elle augmente quand même d'année en année. avec des réformes permanentes faites par des conseillers de différents incompétents de ministres, etc. Et c'est dehors, c'est la crise, les gamins, ils n'auront pas de boulot. C'est sûr que les professeurs sont un petit peu démunis et je pense que ça s'explique comme ça. Maintenant, sur les histoires de... Je pense que ce serait quand même la moindre des choses de remettre l'IUFM comme il était et d'enlever la mastérisation.
D'accord. Donc ce que propose là.
Et de titulariser les vacataires. Bah t'as dit toi-même il y a deux minutes que c'était pas ce que tu faisais. Et la mastérisation.
Les IUFM tels qu'ils sont, effectivement, on avait peut-être arrivé au bout de leur rôle.
En tout cas, c'est pour mettre fin à la mastérisation.
Là, pour le coup, on a mis fin à la mastérisation.
Là, Samy, on est d'accord là-dessus.
Bah,
la refondation d'école, c'est fin de la mastérisation avec donc le retour.
C'est dans la réforme.
Moi, j'attends de voir.
Relis peut-être la réforme. Je t'assure que c'est dedans. Mais après, moi, je voudrais quand même revenir sur ce que disait Romain sur les maternelles. Et je suis désolée parce que je repars un petit peu en arrière. Mais lorsqu'on me dit que c'est peut-être pas bien utile de remettre les enfants à la maternelle, quoi. Enfin, la maternelle.
Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit la maternelle. Alors, à 2 ans.
Oui, à 2 ans. Non, mais c'est ce que
veulent,
je dis. Non, mais
t'énerve pas.
Je reprends juste ce que tu disais.
La scolarisation à 2 ans.
Et tu disais, oui, enfin. Personnellement, moi, je suis quand même assez, entre guillemets, bien placée pour en parler de la maternelle parce que ma mère est directrice d'école maternelle. Et. Franchement, quand on entendait que la maternelle c'était changer des couches et que c'était pas du tout un rôle éducatif, alors que la maternelle, c'est un rôle éducatif, c'est un rôle de socialisation.
Et c'est pas parce que
on va plus refonder vers la primaire.
On n'apprend pas à compter
ni à écrire en primaire. Ça commence dès la maternelle.
Élise Chouquet, là-dessus sur cette question de la scolarisation à 2 ans, donc tu as voulu en reparler, on en reparle. Quand même, un enfant à 2 ans, est-ce qu'il a besoin d'un enseignant, formé être un enseignant, un instituteur? Est-ce qu'il y a cette nécessité d'avoir ce profil d'enseignant à un enfant de 2 ans qui... un enseignant,
que,
là, on
que
parle
l'enfant,
bien. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une assistante maternelle
dans ce cas-là, on met à la crèche. C'est la
question de la scolarisation.
C'est
cette question.
Non, parce que l'école maternelle, c'est pas seulement la crèche. On ne parle pas de crèche. On parle d'insérer l'élève dans le système au plus tôt, parce que justement, on voudrait gommer ces inégalités au plus tôt. Parce qu'il y a des élèves, des jeunes, des parents qui n'ont pas plus forcément les moyens de mettre leurs enfants.
J'ai bien compris la question donc des inégalités, mais est-ce que du coup ce serait pas plus efficace d'agir par bassin de vie, c'est-à-dire que on voit que dans cette zone il y a une population qui en demande de scolarisation à 2 ans et peut-être que là surtout en période de crise économique, agir par bassin de vie. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Est-ce que c'est les collectivités, locales ou territoriales, qui vont prendre donc cette scolarisation à 2 ans? Ou est-ce que c'est proposé à tout le monde? Ce sera le service public de l'école.
Moi, dans mon idéal, après, c'est effectivement quelque chose de fait pour tous les élèves, que chacun ait le droit d'aller à l'école à 2 ans, si évidemment les parents le souhaitent, parce qu'à 2 ans, je suis pas sûre qu'on puisse s'exprimer sur la volonté d'aller à l'école.
Romain, là-dessus.
Non, mais... Je sais pas. Moi, franchement, quand j'écoute la gauche, j'ai l'impression qu'avant la gauche, c'était l'obscurité. Moi, j'ai fait la maternelle à 2 ans. Je veux dire, c'est ça aussi. C'est que l'éducation, on voit toujours aujourd'hui de notre point de vue, à notre âge. Je veux dire, on a fait l'éducation, on a fait la primaire, on a fait le collège, on a fait la maternelle, on a fait tout ça. Et en fin de compte, ça ne se passait pas non plus si mal. Je veux dire, la maternelle, moi, j'ai commencé à 2 ans. À 2 ans, je trouve ça très, très bien, moi, de faire la maternelle à 2 ans. Ce que je dis, c'est la rendre obligatoire. Oui, 2 ans et demi. La rendre obligatoire à 2 ans, 2 ans et demi, je trouve ça, moi. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, mes parents, ils m'ont mis à 2 ans, 2 ans et demi en maternelle. Je ne sais plus quel âge précisément. Et je veux dire, c'était très bien. Je veux dire, moi, je n'ai rien contre la maternelle. La maternelle, je sais qu'on faisait des activités ludiques.
On faisait
la sieste l'après-midi.
C'est le caractère obligatoire de la scolarisation qui te dérange, c'est ça?
C'est le côté obligatoire. Je veux dire, c'est vraiment vouloir faire de la loi pour faire de la loi, quoi. Je veux dire, les parents, s'ils veulent mettre leur enfant, ils mettent leur enfant.
D'accord. La maternelle existe et elle n'est pas obligatoire. Et pourtant, la plupart des parents mettent leurs enfants en maternelle dès 3 ans. Donc,
concrètement,
il faut faire une campagne d'information.
Romain, finalement, là, sur cette refondation de l'école, tu en tires quoi? Enfin, vous en tirez quoi, la droite? Parce que depuis tout à l'heure, tu n'es pas d'accord avec tous les points de refondation.
Moi, je pense qu'il faut déjà parler de rénovation, ou en tout cas quelque chose qui soit moins prétentieux mais plus concret. C'est ça le problème de cette réforme, c'est que c'est un gros truc, un super papier cadeau, et à l'intérieur c'est flou et c'est une coquille vide. Ça veut dire qu'on parle de sujets qui sont très précis. On n'a pas parlé de la semaine de 4 jours et demi. Moi, j'ai fait la semaine de 4 jours, je m'en porte pas plus mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois.
J'ai fait la semaine de 4 jours et demi, je vais très bien.
Donc pour toi, c'est aussi une erreur, 4 jours et demi.
Mais c'est pas que c'est une erreur. En période de crise, ça représente un coût. Je veux dire, pour la ville de Lyon, ça va être 5 millions la première année, ensuite ça va être 7 millions et ensuite 8 millions. Donc, il faut aussi, en période de crise, éviter de faire des réformes.
Oui, mais
pour
si
faire
on
des
veut miser sur l'éducation, il faudra bien réinjecter de l'argent. Mais, alors, à l'UMP,
on fait
4
jours et demi, on fait
4
jours et demi, mais alors on fait 4 jours et demi. Correct, parce que alors là, la réforme proposée, ça veut dire qu'on débloque des heures de vide en plein milieu de la journée où l'enfant, moi je me rappelle, j'étais en récré pendant 1h30, là ça serait prolongé ce temps, je trouve que c'est inutile.
Mais ils sont encadrés, les enfants, tu
mais
sais, par des animateurs.
Mais à quoi ça sert
les gens, ça sert à ce que l'école
gamin,
ne soit pas seulement le lieu de l'instruction,
quand
justement.
Tu préférais être chez toi, le soir. Bon, et ben là c'est pareil,
mais
je veux dire.
Mais les élèves, ils finissent plus tôt, là, tu sais, avec cette réforme.
Ah non.
Ils finissent à 4h, il y a une demi-heure d'encadrement avec des animateurs.
Au lieu de 4h30, c'est très bien, ils pourront commencer le dessin
animé avant. Tragique de remettre la semaine à 4 jours et demi sous prétexte que ça coûte beaucoup plus cher aux collectivités locales. Bravo, c'est bien le bien de l'enfant.
Parce que je préfère
hein. L'enfant au cœur du système scolaire.
Je préfère que cet argent soit investi dans du concret à l'éducation.
Dans du concret.
Oui.
Il y a Samy depuis tout à l'heure qui a les bras croisés et je pense donc qu'il
non,
est
mais
là
c'est
dans
vrai
son
que
siège.
Les profs sont contre, ils font des grèves contre ça. Je pense qu'ils sont bien placés pour savoir si c'est bien ou pas. Pour le coup, c'était vraiment pas l'intention d'abonder dans le sens de l'UMP en disant ça, mais objectivement, les syndicats sont contre.
D'accord. Mais du
moi,
coup,
je suis pas un grand spécialiste de la question. Après, bon,
donc, la refondation
des deux ans,
de l'école pour toi.
La refondation de l'école pour moi.
Idée.
Pour moi, ça veut rien dire. Donc, là,
d'accord.
En
et du coup, le modèle de l'école pour toi.
Tel qu'il est
Samy,
actuellement, ben c'est à la fois un prolongement du système capitaliste, ça c'est clair et net. Et
d'accord. Non, la mais, question c'était donc quelle
et
école
c'est aussi, quoi, non, mais aujourd'hui, tu et c'est, mais soutenais. C'est aussi en même temps des acquis qui ont été obtenus, des démocratiques qui ont été obtenus dans la lutte. Quoi. Parler de la Troisième République, certes la Troisième République s'est créée en massacrant les ouvriers de Paris, mais ils ont été obligés quand même de reprendre une des mesures de la Commune de Paris, malgré tout. Malgré, après l'avoir écrasé. Donc c'est quand même un acquis de la lutte. Après, c'est quand même, en même temps que c'est un acquis de la lutte, c'est aussi un aspect du système capitaliste qui exclut et casse les gens objectivement. Voilà. Donc c'est un caractère contradictoire. Quoi.
Donc là, après, on va pas aller plus loin. Hein. C'est, le temps passe vite. Élise, tu voulais réagir?
Bah, moi, juste d'accord que l'école, la refondation de l'école, ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais enfin, qu'est-ce que vous proposez, quoi?
Voilà, donc en fait, Romain, donc tu...
Non, mais en fait, là, je m'adressais plutôt à Samy, parce que je sais que Romain, ce qu'il propose, mais qu'est-ce que vous proposez?
Mais nous, ce qu'on propose, c'est de... C'est une société qui soit réellement révolutionnée, bon, on peut dire refondée,
donc,
si tu veux.
Donc, une école révolutionnaire,
donc,
c'est ça?
Pour que ce soit pas un instrument de reproduction sociale, il faut qu'il y ait une réalité... extérieur qui permettent ça, parce que c'est bien évident que s'il y a des, je veux dire,
on est d'accord.
bah oui,
sur
on
la
est d'accord en
sociale,
discours.
J'en ai parlé, on est d'accord.
Oui, on est d'accord en discours. Le problème, c'est qu'en pratique, et les vacataires,
vous les titulariser quand
dans l'éducation, quand est-ce que vous les titularisez?
Mais je suis pour, hein. Je dis pas que je suis porte-parole du gouvernement et que je m'appelle Vincent Payon. Hein.
Alors, on va s'arrêter là. Donc, pour Samy, d'ici Communiste Futur Rouge, donc la refondation de l'école, une mauvaise idée. A priori, Romain Billard, le projet de refondation.
Il faut... Le projet là,
c'est
il est
en concertation,
bon. Projet,
de toute façon.
Tout est nul.
Donc,
non, c'est pas que c'est tout est nul. Vous êtes mal placé pour dire ça. Pendant 5 ans, 10 ans, on a eu droit à ce refrain.
Pour
on
finir,
dit pas que tout est
Romain,
nul. On dit pas que tout est nul.
Pour clôturer là-dessus.
Moi, je pense, voilà, de toute façon, tant qu'on aura un ministre d'éducation qui parle de morale et puis qui en même temps parle de légaliser le cannabis, je pense que là, on est bon.
On en parlera plus tard. Élise, peut-être.
On fera peut-être un débat là-dessus, ça pourrait être rigolo.
Voilà. On va finir là. Donc, merci à vous trois. Samy Dichy, Futur Rouge Communiste.
Organisation
Communiste Futur Rouge. Romain Billard, Jeune Pop. Et Élise Chouquet, donc du Mouvement des Jeunes Socialistes. Merci à vous trois. Merci d'avoir participé à ce débat.
Merci.
Et voilà. Et donc, pour ma part, on se retrouve le mois prochain pour un autre débat. Merci à Xavier et Thomas à la technique. Et donc, au mois prochain. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.